Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow.
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate !
Bon, à la base, on cherchait une émission pour le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du divertissement sur Radio Pirate. Je me suis dit, bon, divertissement, et si on parlait de jeu ? Après tout, c'est un sujet qui est super intéressant, et sous couvert de divertissement, le jeu, bah, ça dissimule parfois des aspects beaucoup plus problématiques. Mais le Bosco, Adrien, m'a vu venir et il m'a suggéré de faire cette émission plutôt un mardi, jusqu'alors dédiée à la santé mentale. Et il a raison, le Bosco, parce que le jeu, bah, c'est pas forcément une partie de plaisir. Après tout, c'est quoi le jeu ? Non, je parle pas de celui auquel vous avez déjà perdu juste parce que je l'ai évoqué, je parle du média. Le jeu, c'est un réagencement du monde dans lequel on expérimente sans autre conséquence que pour cet instant suspendu. C'est une zone délimitée avec ses règles particulières, un tiers-lieu spatio-temporel avec ses propres lois, censé être désamorcé des enjeux du quotidien, du réel et en principe inoffensif par nature. Par exemple, les animaux jouent pour expérimenter leurs gestes, apprendre les rapports sociaux, s'entraîner à chasser. Ce faisant, ils reproduisent leur monde, mais un monde dans lequel les enjeux sont amoindris. Et nous aussi, nous nourrissons nos imaginaires ludiques en premier lieu avec nos codes culturels. Le jeu est donc imprégné de la société puisqu'il s'inscrit en elle. Et dans ce transfert de codes sociaux, les joueuses et joueurs reproduisent parfois les rapports qu'ils et elles ont intégrés avec des défauts plus ou moins conscients. Donc, malgré que ce ne soit qu'un jeu, nos traumatismes peuvent y être percutés. Les oppressions révélées, bien réelles, nourries d'aspects sociaux et historiques, en somme, bel et bien politiques. Et sous une légèreté apparente, un jeu ouvre parfois la porte au racisme, au patriarcat, au validisme, à la grossophobie, à l'homophobie, à la transphobie, le classisme, j'en passe, quand il n'est pas le théâtre d'actes plus graves encore. Le jeu est forgé de notre quotidien et en tant qu'expérience, il nourrit aussi, parfois, nos réflexions en retour. Alors, est-il exact de dire que le jeu est apolitique ? Jingle.
Prêts les enfants ?
Oui, capitaine !
J'ai pas entendu !
Oui, capitaine !
Wow !
Donc, pour parler de jeu, j'ai invité trois personnes, en la personne de Fanny, Clotaire et Val, qui fait partie de l'équipage de Radio Pirate, chacun avec leur petit domaine de spécialité, même si ce ne sont pas forcément des experts autoproclamés. Ils ont tous une expérience dont on va parler. En ayant un regard critique sur le jeu et sur les oppressions qui traversent le jeu. Du coup, je vais vous demander déjà à tous les trois de parler de vos pratiques et de vous présenter rapidement. Je vais commencer par Clotaire parce que c'est l'ordre qu'on avait défini hors antenne. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le jeu de rôle papier, du coup, rapidement ? Est-ce que tu pratiques de ton côté ?
Ouais, bonsoir d'abord. Donc, Clotaire, donc je pratique le jeu de rôle papier sur table depuis 30 ans maintenant, quelque chose comme ça, et sur forum depuis un peu plus de 10 ans. Donc, le jeu de rôle, pour ceux qui connaissent pas, le principe est tout con. Nous avons un univers défini avec ses règles. Chacun crée un personnage qu'il incarnera. Le tout est guidé par un maître du jeu ou une maîtresse du jeu qui déroule une histoire dans laquelle les personnages sont les héros.
Merci bien. Du coup, on va enchaîner par Fanny parce que tu as une pratique qui est corollaire au jeu de rôle puisque c'est le jeu de rôle grandeur nature. Fanny, Je te laisse te présenter.
Oui, bonjour. Donc, Fanny, ça fait plus de 20 ans que je fais du GN. Alors, au début, en tant que joueuse, et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus côté organisateur ou PNJ, donc personnage non-joueur, sur d'autres organisations. Et alors, en fait, le loisir, en quoi il s'agit, ben, tout simplement, en fait, la même chose que Clotaire, donc un monde imaginaire, mais parfois avec des thématiques bien réelles, et puis dans lequel, en fait, à la différence du jeu autour d'une table, là, on va vraiment aller dans des décors et on va aller interpréter des personnages, donc qui vont vivre des aventures. Mais ma grosse problématique, enfin, vous allez voir quand je vais en parler pendant toute l'émission, c'est que globalement, le GN, c'est un peu comme le cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, ben, vous avez des petits films d'auteur, vous avez des blockbusters avec des gros budgets, et puis ben, le GN, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est très très proche du cinéma, dans le sens où vous interprétez le personnage, il va vous arriver les trucs, vous allez vraiment les vivre, donc un peu comme si vous étiez le personnage principal d'un film, et dans lequel il n'y a pas vraiment de figurant, tout le monde agit et tout le monde vit des choses. Et donc, bien sûr, ce qui veut dire que le loisir en lui-même est très très varié, et donc c'est très compliqué pour moi, enfin ça va être compliqué de faire des généralités, parce qu'il y aura toujours des cas particuliers. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà.
Yep. Et donc, mon dernier invité, qui est mon coéquipier un petit peu dans cette aventure, puisqu'il s'agit de Valentin, qui fait partie de l'équipe de Radio Pirate. Et toi, tu vas nous parler un peu plus spécifiquement de jeux de rôle et de jeux de plateau.
Jeux vidéo.
Wargame. Ouais. Jeux vidéo, pardon, c'est moi qui m'emmène les crayons.
Non, mais
excuse-moi, je te laisse parler.
De toute manière, quand on est dans un de ces domaines, on teste aussi un petit peu les autres. Hein. Moi, en l'occurrence, ouais. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je joue aux jeux vidéo. Et mon deuxième hobby principal, ce serait le jeu de rôle, même si j'ai aussi fait un petit peu de GN, un petit peu de jeu de plateau et un petit peu de wargame. On se rend compte très vite que les problèmes qu'on rencontre dans un de ces domaines, on les retrouve aussi dans les autres. C'est de ça dont on va essayer de parler un petit peu ce soir, même si je ne suis pas non plus un spécialiste. Hein, je m'informe beaucoup, j'essaye de suivre un petit peu l'actualité, notamment du jeu vidéo. Mais voilà.
De toute façon, j'ai envie de dire, Radio Pirate, c'est une radio de non-spécialistes. Enfin, moi, j'ai été un peu recruté comme ça, où on me disait, si vous avez un complexe de l'imposteur, venez et on vous fera causer sur Internet. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me retrouve à animer ma première émission de radio en live sur Internet. Et c'est très cool. Du coup, je vous propose qu'on s'écoute une petite capsule que j'ai enregistrée avec une joueuse qui joue aux jeux vidéo depuis longtemps. Elle s'appelle Ligeia. Elle a eu sa première console en 1989. C'était une Master System. Et je laisse notre technicien lancer la capsule.
Je vais un petit peu faire une rétrospective sur mon expérience et comment j'ai vécu le jeu depuis tout ce temps. Du coup, j'ai eu ma première console Master System à l'âge de 10 ans, c'était pour Noël. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai eu envie d'échanger avec mon entourage et avec mes copains, copines. Seulement, je me suis retrouvée assez isolée parce que il y avait que des garçons qui avaient des consoles déjà. Donc bon, il y en a certains avec qui j'arrivais à discuter jeux vidéo, mais c'était quand même pas la majorité. Et puis surtout, vers l'âge de 12-13 ans, j'avais vraiment pris ma console en main, je m'y intéressais beaucoup, j'achetais des magazines style Megaforce, parce que voilà, Sega, c'est plus fort que toi, enfin voilà. Et à cette époque-là, il y avait en fin de magazine une double page où il y avait les petites annonces de ceux qui achètent et qui veulent revendre leurs jeux vidéo d'occasion. Moi, à l'époque, voilà, j'avais 10 ans, j'avais pas trop d'argent de poche, je pouvais pas acheter mes jeux moi-même. Les seules fois où j'en avais, c'était à Noël ou aux anniversaires. Donc, pour pouvoir accéder à des nouveaux jeux, je m'étais dit, je vais revendre mes anciens jeux. J'ai posté une petite annonce, sauf qu'à l'époque, les petites annonces, il fallait laisser son numéro de téléphone. Donc, j'ai fait ça, je me suis retrouvée à commencer à avoir des appels. Pratiquement tous les appels que j'avais, c'était que des garçons et beaucoup des adultes. Et dès que ils entendaient une voix féminine, déjà le ton changeait et j'ai vite arrêté ce système-là parce que ça commençait à me faire peur parce que y en a qui devenaient trop insistants. J'avais beau leur expliquer, voilà, j'avais 12-13 ans, j'étais une fille, et au contraire, il y en a, donc on se rencontrait pour faire les échanges de jeux et souvent c'était plutôt des hommes de 20 ans et qui après me rappelaient et je sentais que c'était malsain. Je sentais que c'était pas que pour le jeu qu'on me rappelait, et donc j'ai vite coupé court, ça m'a fait peur. Pendant des années, j'ai pas recherché à avoir de contact et à partager ma passion, donc pendant toute mon adolescence, je continuais à jouer, hein, mais dans mon coin, en fait, toute seule, avec mes jeux. Arrivé dans les années 2000, j'ai quand même voulu de nouveau échanger. J'allais dans les boutiques pour acheter mes jeux vidéo et j'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre parce que quand je rentrais dans la boutique, t'as tous les vendeurs qui me regardaient. Déjà, ils avaient l'air un peu étonnés de voir une fille qui regarde les jeux et quand ils me demandaient voilà, s'ils pouvaient m'aider, je leur demandais de chercher des jeux vidéo d'horreur. Alors là, j'avais plusieurs réactions. C'était une fille qui joue aux jeux vidéo et en plus aux jeux vidéo d'horreur. C'était un mélange de d'étonnement, d'admiration et puis d'envie. Donc après, bien sûr, j'avais le droit à la drague et tout ce qui va avec. En gros, quand je rentrais dans une boutique, j'étais forcément objet des regards. Et c'était un peu gênant. Quand des fois, on a juste envie d'être tranquille, acheter son jeu et puis c'est tout, quoi. Et puis un peu plus tard, quand j'avais autour de 30 ans, dans les années 2010, il y a un autre phénomène qui s'est passé. Quand je rentrais dans une boutique de jeux vidéo, j'avais des réflexions du genre « Oui, je peux vous aider, vous cherchez un jeu vidéo pour votre enfant ?» comme si ça pouvait pas être pour moi que je cherche un jeu. Enfin, c'est là. Avant, c'était je passais pour une extraterrestre, et maintenant, c'est je suis forcément la maman qui vient chercher un jeu vidéo pour son enfant, quoi. Finalement, au cours des années, j'ai toujours eu cette étiquette. C'est bizarre que je joue aux jeux vidéo pour moi en tant que femme, en tant que fille. Au-delà du jeu vidéo, dans mes autres expériences aussi, je me suis intéressée pas mal aux jeux de figurines, à la peinture de figurines. J'avais décidé d'aller en boutique. Comme je sais que dans les boutiques, ils font des présentations de jeux. Et puis, des fois, il y a des après-midi où on peut peindre sur place, on peut jouer. Tout. Donc, j'avais été, je me suis dit, bah, comme ça, je vais me former comme ça. Et en fait, j'ai essayé plusieurs fois, puis j'ai vite abandonné, parce que finalement, je me retrouvais qu'avec des ados et que des garçons. Alors bon, ils n'étaient pas méchants, hein, mais je me sentais pas à ma place, en fait. C'est-à-dire que, sans me rejeter, mais ils étaient vraiment de l'entre-soi, ils n'essayaient pas de m'intégrer. Et j'avais l'impression d'être... Ouais, de faire tâche en fait, pas être là à ma place. Donc bon, j'ai continué à acheter des figurines et à peindre, mais toute seule dans mon coin. J'ai abandonné l'idée d'y jouer parce que y jouer, ça se fait à plusieurs. Du coup, je peignais juste ces figurines pour moi. J'ai fait aussi du jeu de rôle en tant qu'adolescent. Comme je faisais beaucoup avec des amis, je faisais pas avec des inconnus. Du coup, j'ai pas ressenti de rejet par rapport au fait que je sois une fille. Par contre, pendant les parties, revenaient toujours des clichés au niveau des personnages. Donc, forcément, je jouais souvent des personnages féminins, mais sans le faire exprès forcément, mais souvent dans les scénarios, étant donné que j'étais un personnage féminin, quand il fallait aller amadouer tel ou tel personnage pour lui soutirer des infos, il fallait que j'aille le draguer. Enfin, voilà, il y avait toujours à rapporter à des clichés autour du sexe féminin, quoi. Enfin, souvent, pas à chaque fois, mais souvent, j'ai eu cette expérience.
Est-ce qu'ils sont ils, elles là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Radio.
Pirate.
Voilà, c'était un condensé de l'expérience de joueuse de Ligeia sur une petite trentaine d'années, on va dire. C'est un condensé surtout sur les mauvais aspects de ces expériences. Et encore, j'ai coupé pas mal de choses dans le témoignage que j'ai recueilli. Et je la remercie d'ailleurs de m'avoir permis d'enregistrer cette petite capsule. Mais c'était vraiment pour présenter ce côté où le jeu, même si ça, c'est a priori un divertissement, même si c'est un contexte qui est censé être de divertissement, il y a quand même des aspects qui viennent percuter tout ça et donner des situations un peu creepy, un peu malaisantes, pas forcément agréables. On le voit avec l'actualité, notamment dans le domaine du jeu vidéo, avec ce qui s'est passé avec certains streamers, par exemple, où on a eu un four avec un vidéaste très politisé qui s'est retrouvé parmi des joueurs et streamers pas du tout politisés. Que quelqu'un veut se sentir rebondir là-dessus, je ne vois pas du tout intervenir, vous êtes d'un calme olympien.
Moi je voulais juste dire que ce qu'il y a de bien avec cette capsule, c'est que déjà elle brosse pas mal l'horizon et elle parle de tous les domaines.
Ouais, tout à fait.
On parlait du jeu vidéo, de figurines, de jeux de rôle. C'est vrai que souvent, ce genre de boutiques, elles sont à proximité, côte à côte, ce qu'on veut. Mais lorsque les filles entraient dans des boutiques de jeux de rôle ou de jeux vidéo, elles obtenaient ce genre de réaction. Alors que les domaines sont proches, mais pourtant, On pourrait croire que ce sont des jeux sociaux, donc il faut qu'on soit tous copains, mais en vrai, il y avait des choses très problématiques qui pouvaient se dérouler dans ce genre de domaine.
Tout à fait. Fanny, tu voulais réagir ?
Ouais, ben moi, tout simplement pour dire que globalement, ce que l'IGA a dit, c'est juste l'histoire de ma vie aussi. Ouais, non, même la console est la même. Donc, vraiment, c'était exactement ça.
Je vais spoiler un peu. On se connaît tous les trois. Mais oui, je doute pas du tout du fait que c'est une expérience effectivement que tu as vécue, et même que ce soit dans le vis-à-vis du jeu vidéo, parce que tu as joué aussi au jeu vidéo, même si tu t'en es retiré, mais dans le domaine du jeu de rôle grandeur nature, c'est également parce que c'est une expérience qu'on vit de manière corporelle, en fait.
Ben, en fait, j'irais même plus loin. Moi, du coup, en fait, quand j'ai commencé, c'était sur du vampire et on était une cinquantaine d'adhérents à l'association et il y avait deux filles. Ouais. Donc, voilà, ça, déjà de base, c'était vite vu et donc forcément, il y a les comportements qui vont avec, même si bon, j'ai eu du bol quand j'ai commencé, j'ai pas eu de soucis particuliers, mais c'est globalement, voilà, c'était pesant. Mais à l'époque, ça m'a un peu, enfin, je l'ai pris comme étant normal parce que on vit dans un monde sexiste, donc je trouvais ça normal. En fait, c'était la base, on va dire. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, non, c'était pas normal du tout. Mais bon.
C'est ça. Voilà. On a tendance à avoir à intégrer ces oppressions-là, mais effectivement, on oublie, comme on vit dans cette société, que ce n'est pas normal. Clotaire, une réaction ?
Ouais, donc. Alors effectivement, c'est enfin ce qu'a décrit l'IGA et ce dont parle Fanny a carrément existé. Tous les personnes ayant passé la trentaine l'ont connu. Après, est-ce que c'est encore le cas maintenant ? J'aimerais pouvoir dire non. Malheureusement, on se retrouve à devoir dire oui, même si. Effectivement, sur certains domaines, ça s'est calmé. Typiquement, l'accueil d'une personne féminine dans un magasin de jeux de rôle, en règle générale, alors attention, on va parler de généralité, il y a toujours des cas particuliers, mais en règle générale, bon, elle ne se retrouve pas à devoir rester à la porte ou elle est plus regardée comme un extraterrestre, tout simplement.
Je te coupe, Clotaire, tu n'es pas une femme, hein, parce que moi, je peux t'assurer que quand je vais acheter les jeux vidéo pour mon frère à tous les Noëls, clairement, j'ai le droit, enfin, on me parle comme si j'étais une mamie qui connaissait un jeu vidéo à qui on veut refourguer les vieilleries pour s'en débarrasser, quoi. Donc, je t'assure qu'on a encore regardé par les vendeurs. De manière très... comme des extraterrestres, en fait.
D'où, Fanny, ma précision du magasin de jeux de rôle. Parce que, effectivement, là-dessus, je serais tout à fait d'accord avec toi, c'est que le jeu vidéo est un milieu qui est encore ultra sexiste dans son ensemble. Enfin, quand tu vas en boutique, quand tu regardes ne serait-ce que l'accueil de certaines joueuses dans des équipes, quand bien même des grandes équipes nationales de e-sport. Donc, clairement, il y a un vrai problème avec ça dans le jeu vidéo.
C'est la même chose dans le JDR, en fait. C'est juste que dans le JDR, moi, je vais te dire ce que je ressens. C'est qu'en fait, on est protégé parce qu'on maîtrise les gens avec qui on joue, on sait avec qui on joue. Et ce que disait l'IGA était très vrai. C'est-à-dire, enfin, moi, pour le coup, j'ai été faire beaucoup plus de jeux de rôle sur table dans des conventions et des choses comme ça, ou avec des copains de copains. Donc, du coup, j'étais plus confrontée. Et clairement, il est peut-être moins perceptible, il est peut-être moins visible, mais la discrimination elle est toujours là.
Mais comme j'ai dit en début, ça n'a pas disparu.
C'est ça, malheureusement.
Tout à fait.
Ça a été limite mon premier mot.
Oui, tout à
fait. C'est pour ce qui est du jeu vidéo, et en fait on se rend compte que c'est la même chose pour les autres domaines, c'est presque une prophétie autoréalisatrice où on se dit on va marketer nos jeux, nos produits pour les jeunes garçons. C'est ce qui s'est passé avec le jeu vidéo, c'est que les premières publicités pour les vieilles consoles, c'est vraiment celles qui étaient avant la première NES, donc les Atari, tout ça, c'était plus des publicités destiné à la famille, où on vendait des consoles pour la famille, pour que tout le monde puisse s'amuser. Et lorsqu'il y a eu, après, dans les années 80, le crash de tout ce qui est société de jeux vidéo, qui a été relancé un petit peu après par Nintendo avec la Nintendo Entertainment System et Sega avec tout ce qu'il y avait derrière, là, ils se sont dit, bon, bah, on ne peut plus marketer ça pour tout le monde, donc on a besoin de se concentrer sur une partie de la population, et ils en ont fait des jouets, et ils en ont fait des jouets pour les garçons, et à partir de là, c'était pendant 30-40 ans, ils ont marketé le jeu vidéo que pour les garçons, et ils se sont jamais intéressés aux filles comme cible potentielle, alors qu'on le voit aujourd'hui, avec les derniers jeux vidéo qui marchent, les protagonistes féminines, elles cartonnent, quand on fait des statistiques, on se rend compte que 50% des joueurs sont des joueuses, elles ne sont pas apparues d'une année sur l'autre, elles étaient là depuis très longtemps, c'est juste qu'elles ont été complètement ignorées pendant très très longtemps.
Et ça a été, je vais rebondir moi, avec un point de vue un peu plus axé sur le jeu vidéo. Je sais que la place des personnages féminins, ça a été un combat. Outre le côté du personnage très sexualisé de Lara Croft, auquel on pense entre guillemets tous et toutes en premier lieu, j'ai en tête un jeu sur lequel il y a eu une vraie polémique dans la maison d'édition et où les éditeurs se sont battus contre les distributeurs pour imposer un personnage féminin. Si j'ai de mémoire, c'est un jeu qui s'appelle Remember Me. Je perds la référence, il faudrait que je la retrouve. Mais c'est un jeu qui jouait sur la mémoire. Et si je ne m'abuse, il y avait Alain Damasio qui avait bossé sur le scénario de ce jeu. Et ils ont vraiment travaillé pour imposer ce personnage principal, perso féminin, imposé. Donc oui, pour répondre à la question qu'il y avait dans le chat, effectivement, c'est quelque chose qui a évolué à travers le temps, parce que, comme on le disait avec la capsule de Ligeia en intro, il y a longtemps, c'était encore beaucoup plus problématique qu'aujourd'hui, mais cette problématique-là, ne serait-ce que la problématique du sexisme et de la position de l'image des femmes dans le jeu vidéo, de la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Remember Me, c'est donc notre exact. Merci Strabisme. La représentation des femmes dans le jeu vidéo, ça a évolué, mais il y a encore énormément de boulot pour faire évoluer les mentalités aujourd'hui. Fanny.
Ah oui, simplement pour dire globalement, oui, ça a évolué. Pourquoi ? Parce que ça a été dénoncé ouvertement et au bout d'un moment, en fait, on a arrêté d'être la majorité, enfin, ouais, la minorité silencieuse, yeah. Puis la majorité silencieuse, parce que moi, je vois là, dans le GN, clairement, j'ai beaucoup plus de joueuses que de joueurs. Et pas forcément parce que le type de jeu que je réalise s'y prête, mais clairement, il y a plus de nanas intéressées par le GN que de mecs. Donc effectivement, bah, voilà, elles se sont levées, elles ont gueulé, et puis bah, du coup, les choses ont changé. Mais par contre, pour plein d'autres discriminations, les choses n'ont absolument pas bougé. Par exemple, la transphobie, on n'en parle pas, donc sous-entendu parce que ça n'existe pas, alors qu'en fait, ça existe carrément violemment, quoi. Oui, le validisme, la grossophobie, donc c'est malheureux à dire, mais en gros, c'est parce qu'on a gueulé que les choses ont bougé, et c'est ça quand même qui est triste.
Val, tu voulais rebondir ?
Oui, c'était pour parler justement d'affaires récentes. On a eu beaucoup de révélations cet été concernant Ubisoft,
oui, tout à fait.
Un grand nom du jeu vidéo, un grand nom français en plus du jeu vidéo, qui a une image extrêmement cool, extrêmement jeune, avec des jeux destinés à un très grand nombre et surtout avec des grosses, grosses licences. Et on a appris, c'était notamment c'était le journaliste Erwan Cario de Libération, ça a commencé à sortir sur Libération, c'était repris après dans les grands journaux, hein, vraiment, c'était un truc énorme. On a appris ce qui se passait en fait à l'intérieur, puisque là on parle, enfin, j'ai surtout parlé du jeu vidéo, de ce que contient un jeu vidéo, mais on peut aussi parler de comment sont faits ce genre de jeux vidéo. Et dans l'entreprise, c'était vraiment des histoires de sexisme, harcèlement sexiste, et vraiment des histoires affreuses où on se rendait compte que non seulement les femmes qui travaillaient pour Ubisoft étaient harcelées, mais en plus, les ressources humaines ne les aidaient pas, c'est-à-dire qu'elles étaient au courant et elles essayaient de dissimuler au maximum ce qui se passait pour ne pas entacher l'image de Ubisoft, pour garder des grands noms qui étaient des stars à l'intérieur de l'entreprise, pour garder de la publicité, tout ça. Et ça change un petit peu aujourd'hui, même si on se rend compte qu'ils ont viré 5 noms qui ont été 5 personnes qui sont problématiques, visiblement, c'est avéré, mais on se rend compte que le problème est beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment un changement des pieds à la tête qu'il faudrait faire chez Ubisoft pour améliorer ce genre de situation de travail. Hein. On ne parle pas d'un produit de vidéo, c'est juste de travail.
C'est ça, exactement. Bah, c'est cool parce que du coup, on commence à partir sur le deuxième thème. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on embrayera sur la deuxième partie qui est comment ça se manifeste tout ça au sein des différents contextes de jeu. Mais avant ça, demain c'est la journée contre les violences faites aux femmes, on va diffuser une petite capsule sur cette thématique-là, une pause musicale et on revient tout de suite.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Bonne, là, c'est la bonne. Attends. Ralentis. Non mais arrête-toi. Reviens. Merde.
Par décret, droit de se rassembler suspendu.
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver ?
Radio.
Pirates !
Du coup, c'était une petite pause musicale avec une pensée pour nos amis, les amis que je vois quand je vais en jeu de rôle ou en GN, les copains autostoppeurs qui galèrent. Qui galère souvent sur les aires d'autoroute. On était en train de parler en off du fait qu'effectivement il y a encore énormément de boulot parce que c'est des choses qui évoluent et qui peuvent être qui sont encore très très inscrits dans la société, donc qui qui commence à se... Comment dire ? Comment ça se manifeste, comment ça peut se manifester et jusqu'où ça peut aller parfois, Valentin ?
J'ai l'impression que en fait il faut que les gens qui se sont retrouvés pendant des années, qui ont été écartés, qui ont été discriminés, qui sont retrouvés en minorité, il a fallu attendre que ce soit, ils ont dû eux-mêmes, non seulement ils étaient victimes de ces discriminations, mais en plus ils ont dû faire tout le boulot de leur côté pour créer leur propre jeu. Mmh. Qui justement répondait à ce qui leur manquait finalement. C'est qu'il a fallu que des femmes s'organisent pour développer des jeux vidéo, qu'il y ait des problématiques sur le racisme pour enfin se rendre compte qu'il y a des jeux de rôle qui pouvaient être, des univers de jeux de rôle qui pouvaient être problématiques. À chaque fois, en fait, on a d'abord dû commencer par les joueurs, les clients, ceux qui achetaient, qui ont dû créer leur propre jeu parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui manquait clairement dans ce qu'on leur proposait.
Tout à fait, ouais. C'est un peu ce que, enfin, je sais que c'est un peu ce que font certains producteurs et productrices de jeux, justement pour répondre à toutes ces problématiques là. J'entendais quelqu'un qui faisait du bruit, non, pardon. Clotaire, Fanny, un mot sur ces aspects là ou...
Oui. Si, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, mais vas-y, Clotaire, je te laisse la parole d'abord.
c'est clair que les problèmes sont là. Et encore, là, on a parlé sexisme. Mais,
on a parlé que du sexisme, effectivement.
Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent. Mm-hmm. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des loisirs qui se base sur un imaginaire lui-même basé sur ce que notre culture nous offre. Donc malheureusement, notre culture étant sexiste et phobique, les loisirs s'en ressentent, parce que notre imaginaire s'en ressent.
Tout à fait.
Pour ce qui est du jeu de rôle, on le voit si on prend par exemple le médiéval fantastique, qui est à la rigueur, j'ai envie de dire, le classique du jeu de rôle. Mmh. On se retrouve souvent avec le fier guerrier tout en muscles pour ce qui est des hommes, la fille soit rôdeuse, soit magicienne parce que c'est une fille et donc ça peut pas être une guerrière, et quand c'est une guerrière, c'est une barbare qui a une armure qui tient plus du soutien-gorge que de la qui a une armure déjà. Donc, non, c'est d'énormes stéréotypes. Alors, oui, des gens travaillent dessus justement pour les casser.
Parfait.
Mais c'est des stéréotypes qui imprègnent notre imaginaire. Et déjà, là, il y a un énorme travail à faire. Certains jeux le font, et d'autres, beaucoup moins. Mais ça viendra aussi, au-delà des lores, au-delà des éditeurs, des créateurs, ça viendra aussi des personnes qui jouent.
C'est ça. Fanny, tu voulais rebondir ?
Oui, en fait, le truc, c'est nous, côté GN, donc jeu de rôle grandeur nature, faut pas se leurrer, on a quand même un hobby hyper privilégié, enfin deux privilégiés, c'est-à-dire que la plupart du temps, il faut du matériel, il va falloir voyager, il va falloir payer une PAF plus ou moins importante, donc déjà de base, nous, notre loisir, c'est un loisir de privilégié. On peut bien sûr le pratiquer sans l'être, parce qu'il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui essayent de faire bouger un peu les choses. Donc, il est possible de le pratiquer de manière un peu à la route, mais voilà, clairement, on n'aura pas accès au même jeu selon si on a du mal à boucler les fins de mois ou si on a les moyens de claquer 500 euros sur un week-end. Mmh. Donc, c'est pour ça que du coup, mon loisir lui-même, il est hyper oppressif, même si, voilà, je te dis, nous, je sais qu'on essaye vraiment de tout faire pour éviter que ce le soit, mais on ne peut pas faire de miracle. Enfin, à un moment donné, à partir du moment où on loue des lieux, par exemple, si on loue un vieux fort désaffecté, justement pour mettre en scène des batailles un peu épiques, façon Seigneur des Anneaux, ben le truc c'est que le prix du coût du fort, il va falloir le répercuter sur les biais. Et puis pareil, pour pouvoir aller participer à la bataille, ben, faut avoir une épée en latex. Une épée en latex, ça coûte déjà dans les 100 euros. Donc il y a plein de systèmes de prêts qui sont en place entre les gens qui font du GN. Donc heureusement, ça permet justement d'aider un peu ceux qui débutent ou bien ceux qui n'ont pas trop les moyens. Mais c'est plutôt compliqué. Et puis après, nous, du coup, vu qu'on vit les sensations en vrai, ben, oui. En fait, on a clairement des cas de figure où ça dérape. Donc moi, je sais, du coup, j'ai eu la chance de demander un retour d'expérience à pas mal de GNistes, en fait, parce que j'ai dans le projet d'écrire un bouquin un jour. Et j'ai eu 250 retours. Et dedans, il y avait une des questions, justement, sur un pire souvenir de GN. Et j'avoue que quand j'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est... Pourtant, je pensais avoir vu à peu près tout ce qui se faisait en GN. Et bah, en fait, non, clairement pas. Donc, j'ai eu des cas d'agression physique et pas juste des mots, hein, vraiment des gens qui se font casser la figure. J'ai vu des cas on m'a reporté des cas de viol, ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà, clairement, mon loisir est absolument pas safe malgré tout ce qu'on met en place. Donc je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais on met plein de trucs en place pour justement éviter qu'il le soit et qu'il le devienne. Mais il n'empêche que l'organisateur déjà ne peut pas avoir l'œil partout, et puis après, des fois, l'organisateur est carrément complice du truc. Donc du coup, après, on ne s'en étonne pas. On vit dans un monde pourri. Forcément, il y a des répercussions aussi dans ce genre de loisirs. Quoi.
C'est ça. Clotaire, tu voulais...
Ouais, je voulais juste rebondir et en fait aller dans le sens de Fanny. Mm-hmm. Oui, clairement, malgré tout, ça reste des loisirs de privilégiés. Faut pas se leurrer, quand on regarde le prix de l'annoncé de la PS5 et de la prochaine Xbox, on le comprend pour le jeu vidéo. Le jeu de rôle en lui-même, malgré tout, on a besoin de livres de base, où il y a les règles, où il y a l'univers qui sont expliqués, voire des suppléments plus ou moins nombreux suivant les jeux. Tout ça, c'est de l'investissement.
Même s'il y a des jeux gratuits, je te coupe. Juste rapidement, il existe des jeux gratuits, des jeux de rôle gratuits, dont un dont on a parlé dans une émission précédente.
Ouais. Alors, il existe des jeux de rôle gratuits, il existe même des jeux de rôle qui existent sous forme payante et qui, malgré tout, ont mis toutes leurs données disponibles sur des sites internet. Donc, ils ouvrent à ça. Seulement, derrière, il y a un autre... problème, c'est que malgré tout, tu as une vraie discrimination à la culture et à l'accès de la culture.
Tout à fait.
Dans le sens où, généralement, ça reste des œuvres écrites, donc il faut pouvoir se fader 300 pages à lire pour la moyenne, sachant qu'il y a des jeux qui tiennent sur beaucoup moins que ça, heureusement, mais il faut réussir à se les lire. Quand on n'a pas l'habitude de lire, c'est déjà énorme. Hein. Derrière, il y a du langage, donc si on n'a pas le vocabulaire, ça peut être très difficile aussi. Donc il y a vraiment, malgré tout, une discrimination qui se fait. Je vois qu'on nous met quelque part, oui, dans le JDR, il y a la vraie culture du viol, et c'est triste. Oui,
c'est ça.
Oui, bien sûr. C'est, malgré tout, les loisirs, même... tout ce qu'on peut espérer et tout ce qui est fait de la part des différents intervenants pour améliorer la situation, c'est loin d'être idyllique. Et pour parler, par exemple, pour rejoindre des problèmes qui existent sur le jeu vidéo avec le jeu de rôle, c'est sur le jeu de rôle en forum qui est d'un côté à la fois plus safe dans le sens où on ne sait pas quelle est la personne avec qui on joue est un ou une inconnue, c'est totalement agenré, parce que rien n'empêche un homme de jouer une femme, ou une femme de jouer un homme, au niveau des races, tu fais ce que tu veux, etc., tant que tu es dans le lore. Mais à côté de ça, comme pour le jeu vidéo, tu ne sais pas avec qui tu joues. Et donc, tu peux arriver vite à te retrouver dans des situations oppressives pour toi, alors que t'es pas là pour ça non plus, quoi.
Si les précautions sont pas prises en amont dans l'organisation du jeu, évidemment, puisque quand même il y a des dispositifs qui essayent de pallier à ces soucis là. Val, tu voulais un petit dernier mot sur ce sujet-là ?
Juste qu'il faut, il faut savoir être critique des hobbies, des hobbies qu'on aime, des médias qu'on aime. Il suffit de voir en fait les réactions vives qui ont été reçues dans le jeu vidéo par Anita Sarkeesian, Zoe Quinn, ou toutes les personnes qui, de toute manière, que ce soit en jeu de rôle, en jeu vidéo ou en wargame, en ce que vous voulez, dès que les gens ont essayé de faire avancer les choses dans le bon sens, il y a eu vraiment, mais c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore et que tous les démons sortaient d'un seul coup et on se rendait compte que ce domaine était vraiment gangréné, mais profondément. C'est-à-dire qu'il y avait des vagues de harcèlement, des choses extrêmement graves qui se sont déroulées. Et on entendra souvent les mêmes excuses. Hein, c'est genre, on va dire à quelqu'un, oui, mais c'est bizarre que ta cité cosmopolite dans Warhammer, qui est un univers médiéval fantasy, elle est cosmopolite, mais il n'y a que des personnes blanches à l'intérieur. Il n'y a absolument aucune diversité. Et là, à ce moment-là, ils vont dire, oui, mais c'est une sorte de réalisme historique. Ils vont se défendre avec ça, alors que réalisme historique dans un univers fantastique, je veux dire, à partir du moment où il y a de la magie, où on peut se téléporter, venez pas me parler de réalisme historique. voilà, faut pas oublier, on a beau aimer quelque chose, il faut savoir rester critique de ce qu'on aime. Voilà.
Tout à fait. Fanny.
Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Val. En fait, le coup du réalisme historique, moi, ça me fait hurler de rire parce que je fais de la reconstitution historique, c'est mon deuxième hobby. Et clairement, enfin, juste à un moment donné, c'est le roman national, en fait. C'est côté, le français fier, travailleur, famille, travail, patrie, et rien d'autre, quoi. Donc, sous couvert de c'est plus historique, c'est plus logique, enfin. Juste qu'on est dans des mondes imaginaires, donc à un moment donné, non, c'est pas logique, c'est pas historique, c'est juste ton putain de sexisme ou ta putain de xénophobie de merde, en fait, qui parle, quoi. Et c'est que c'est compliqué de le dénoncer. Mais là encore, je pense qu'on en parlera plus tard.
Oui, clairement, on va essayer de conclure sur les solutions. Je propose, voilà, passer la deuxième capsule de l'IGEA pour justement parler du côté un peu plus, comment dire, là où le jeu peut amener aussi des solutions, peut amener des réflexions.
Aujourd'hui, je suis animatrice multimédia en médiathèque et parmi les animations que je propose, je fais pas mal de choses autour du jeu, que ce soit du jeu vidéo, d'autres jeux, hein, même jeux de plateau, même du jeu de rôle que je propose à nos lecteurs. Donc, je travaille beaucoup avec les enfants entre 8 et 15 ans dans un quartier sensible. Du coup, donc c'est un public qui a pas un accès facile à la culture et ils ont pas tous des consoles vidéo chez eux. Enfin voilà, ils ont pas tous accès matériellement à tout ça. Donc il y en a beaucoup qui viennent, par exemple, jouer aux jeux vidéo chez nous quand on propose des animations parce qu'ils ont pas ça chez eux. Et ça leur permet d'être ensemble aussi, d'avoir un espace où ils sont tous ensemble. Donc je propose des séances de jeux vidéo pour découvrir et aussi je fais des tournois. La plupart du temps, la majorité des enfants et ados qui viennent à ces séances, et c'est essentiellement des garçons. Et moi j'essaie le plus possible d'amener des filles pour jouer lors de mes séances. C'est pas évident, mais quand elles voient que je suis moi-même une fille, ça les rassure. Et parfois, il suffit juste que quand elles rentrent dans la salle et qu'elles voient que il y a une dizaine de garçons et qu'elles sont la seule fille, par exemple, je vois, elles se figent en fait. Et elles me disent finalement, non, je n'ai pas envie de jouer. Alors bon, parfois, certaines, j'arrive quand même à leur faire dépasser un peu leur blocage et à venir jouer avec nous. Et puis au final, ça se passe très bien. Mais c'est un peu comme si elles se sentaient pas légitimes en fait d'être là, parce qu'avec des garçons, elles sont des filles. Et puis bon, c'est vrai que parfois, dans des séances, les garçons, bon, ils ont des réflexions pas forcément méchantes, mais quand il y en a un quand il y a des matchs et qu'il y en a un qui se retrouve en duel contre une des filles et qui perd, tout de suite, les copains lui disent « Ah, t'as perdu contre une fille !» Enfin, il y a toute cette pression sociale autour. Et indirectement, elles ressentent ça. Et à force, elles finissent par plus avoir envie de venir, en fait, pendant les séances. Donc, c'est pas évident. Mais comme je propose pas que du jeu de combat ou des choses comme ça, par exemple, quand je propose du Just Dance, il y en a beaucoup qui veulent pas. On le voit, ils sont timides, ils sont gênés par rapport à leurs copains. Pour eux, c'est parce que c'est associé au jeu de filles. Des fois, en poussant un petit peu, j'arrive quand même à les faire jouer. Au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ils sont complètement décomplexés. Et après, c'est super. Après, il y a les filles qui sont avec. Et même, c'est souvent les garçons qui sont plus difficiles à arrêter. On est, malgré soi, conditionné en tant que minorité et exception. Par exemple, une fois, j'ai une actrice qui est venue à la médiathèque. Elle avait 75 ans, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Et en discutant, je me suis rendu compte qu'en fait, elle jouait aux jeux vidéo, et notamment The Witcher. Donc une petite mamie qui joue à The Witcher, c'est génial. Quoi. J'ai eu une super conversation avec elle. Elle était à fond. Comme quoi, hein, ça peut aussi être transgénérationnel. Tout dépend en fait de l'ouverture d'esprit qu'on a. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Mais malheureusement, il faut encore lutter contre ça, contre la société qui essaye toujours d'imposer des genres à tout, même dans le jeu.
Radio. Pirate !
Voilà, donc le jeu, ça peut aussi être un facteur de diversité, de diversification, répondre à des problématiques de mixité, par exemple, justement, comme le disait Ligeia, dans des quartiers difficiles, dans des quartiers sensibles, où c'est parfois un petit peu compliqué, avec des histoires de représentation. Alors, j'écoutais juste avant l'émission, j'écoutais le podcast de Pandov, justement, qui parlait, qui lisait un livre, justement, sur ces questions de représentation homme-femme dans le milieu de la boxe thaï. Et ça résonne complètement à cette capsule. Du coup, le jeu, comment répondre aux problématiques dans le jeu et comment répondre aux problématiques de la société par le jeu, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Val.
On peut aborder ce problème de très nombreuses manières, mais en fait, il y a les gens qui sont directement concernés vont forcément se mobiliser pour faire changer les choses. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'initiatives d'associations pour inclure beaucoup plus de diversité dans les jeux vidéo, les jeux de rôle. On a appris d'ailleurs ça parlait un petit peu d'Ubisoft dans le chat, que toutes les améliorations qu'on a eues ces dernières années dans les grosses licences, notamment Assassin's Creed, le fait qu'on puisse jouer désormais un personnage masculin ou un féminin, ou un personnage féminin, on le choisit désormais. C'est des choses qui ont été acquises, mais avec du sang et des larmes. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça, parce qu'ils ont été, ils ont été empêchés d'ajouter des personnages féminins qui sont optionnels et qui devaient être des personnages principaux, par exemple. Donc là, c'est vraiment des choses. On n'a que des miettes de ce qui est demandé de la part des gens. Et donc ça, c'est ce qui peut se passer à l'intérieur, mais il faut que il faut aussi que ces grandes avancées viennent d'en haut, j'ai envie de dire. Il faut que les développeurs de jeux vidéo, on peut parler de l'accessibilité, puisque aujourd'hui, de plus en plus de jeux vidéo offrent des options d'accessibilité pour les daltoniens, pour les gens qui ont des problèmes moteurs ou qui ont, qui ont pas forcément une manette classique comme tout le monde. De plus en plus de jeux vidéo proposent des options d'accessibilité. D'ailleurs, il y a même les Game Awards de cette année qui auront une catégorie pour récompenser le jeu qui innove le plus en matière d'accessibilité. Donc ça, on peut dire que c'est effectivement très bien. Et c'est juste que ça a mis extrêmement longtemps parce qu'il a fallu que d'abord les gens se mobilisent et demandent à faire changer les choses de la part des développeurs, des studios qui créent ces jeux.
C'est ça. Fanny, tu voulais réagir ?
Ouais, alors nous, de notre côté jeu de rôle grandeur nature, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, mais c'est pas simple parce que, simplement par exemple, écrire un personnage féminin, en fait, n'importe qui peut le faire, mais écrire un personnage féminin intéressant, en fait, faut casser ce qu'on sait, faut désapprendre et puis réapprendre à écrire. Parce que pourtant, étant une femme, enfin, quand je relis mes premiers personnages que j'ai écrits il y a 10 ou 15 ans, je tombais directement dans les clichés de la pute ou de la soigneuse, le truc habituel, quoi. Et pourtant, je suis une nana. On peut se dire, je suis censée quand même savoir ce que les nanas ont envie de jouer. Donc, faut désapprendre, faut se remettre en cause en tant qu'organisateur en permanence, donc c'est un gros boulot. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup féminisme, mais homophobie, écrire un personnage homosexuel, enfin moi je sais que j'avais vraiment pendant très longtemps je me posais la question, parce que tous mes potes homo qui venaient jouer, quand ils jouaient, ils demandaient à jouer des hétérosexuels. Donc je me suis demandé, mais pourquoi tu viens pour jouer un hétérosexuel alors que tu es homo? Et la réponse, c'est simple. Moi, j'ai pas envie de vivre un personnage qui se fait foutre dehors, qui se fait maltraiter par la société. Je le vis dans la vraie vie, ça. J'ai pas envie de le vivre aussi dans un truc où je suis censée m'évader. Donc tant pis, je joue ce que je suis pas, je joue un hétéro. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, le pire, c'est que moi-même, étant pourtant consciente et puis ayant plein d'amis homo, mais je reproduis la maltraitance, parce qu'effectivement je m'imaginais je voulais être entre guillemets crédible, alors qu'en fait non, les gens ils viennent pour s'amuser et pour passer du bon temps, et voilà. Et après, par contre, il y a plein d'autres choses qui sont mis en place aussi, je voulais juste en parler, c'est déjà pour le GN, bah, tout ce qui est note d'intention, c'est-à-dire qu'avant jeu, le fait de demander aux organisateurs de se positionner par rapport à leur démarche de recrutement des joueurs, de casting, de matériel à avoir, ce genre de choses, ça c'est essentiel. Donc si jamais un jour vous voulez essayer le GN, demandez la note d'intention, mais déjà de base, s'il n'y en a pas, c'est mauvais signe. Et puis bien choisir, et puis bien entendu, après il y a plein de groupes à l'intérieur du jeu de rôle grandeur nature qui se crée pour se soutenir. Il y a des groupes militants aussi, c'est-à-dire que par exemple là il y a un groupe de GN antifasciste qui vient de se créer, et donc il y a aussi des jeux qui deviennent des expériences. Par exemple il y a l'association Expérience qui a créé un jeu qui s'appelle Le Quota, où en gros les personnes sont mises à la place de migrants. Donc, ils vont être parqués, ils vont être maltraités, ils vont être fichés. C'est très étrange de penser à ça, parce qu'on se dit un jeu, on est là pour s'amuser, donc il y en a vraiment le côté ludique. Mais non, le GN peut être aussi un outil d'apprentissage, de sensibilisation à beaucoup de choses, parce que c'est même le meilleur des outils, parce qu'on vit vraiment les choses. Donc on a la possibilité, comme tu disais en intro, de tester des trucs, de voir un petit peu ce que ça fait, de sentir rejeté par la société, ce genre de choses. Donc c'est hyper un très bon outil. Par contre, il faut avoir la force morale de le supporter. C'est-à-dire que ben, souvent, ça fait des dégâts parce qu'on n'est pas sûr du tout de pouvoir survivre, entre guillemets, à ce qu'on est en train de vivre, même en jeu, en fait. C'est-à-dire que ça nous touche vraiment, des fois, personnellement.
Clotaire, tu voulais réagir aussi ?
Ouais, c'est... Bon, après, réagir derrière ça, ça devient dur. Non, c'est vrai que malgré tout, des initiatives sont prises dans les différents médias. Alors bon, encore une fois, moi, je vais parler de ce que je connais le plus. Donc, par exemple, sur le jeu de rôle, dernièrement, vous avez sur l'appel de Cthulhu, donc qui est l'un des plus gros titres du jeu de rôle depuis des années, ils ont sorti des livres où ils ont commencé à mettre de l'écriture inclusive. Alors bon, le livre entier n'est pas écrit en inclusif, hein, faut pas se leurrer, mais malgré tout, ils ont commencé. Vous avez donc sur RunQuest un vieux jeu qui connaissait une nouvelle monture, en fait, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé, ont sorti de livres de la meneuse. Tout ça, ce sont des initiatives qu'il faut quand même saluer, parce que c'est au moins, ça va dans un certain sens. À côté de ça, ils se sont pris une volée de boucliers qui s'est levée, parce que on a touché au sacro-saint livre du meneur, parce que l'écriture inclusive, c'est illisible, etc. Donc malgré tout, des initiatives sont faites. À côté de ça, vous avez aussi, typiquement, dans le jeu de rôle sur forum, par contre, là, faut toujours s'appuyer sur la modération. Au même titre que dans un GN, et je pense que Fanny sera d'accord avec moi, vous appuyez toujours sur les orgas. Là, vous appuyez sur la modération, à tout prix. Ça veut dire que si vous avez le moindre lourdeau qui vient vous faire chier, faut pas hésiter. Et ça, quand je dis lourdeau, c'est pas forcément... le gros lourdeau qui va venir essayer de draguer une minette.
Non, c'est parfois plus subtil vraiment... que ça. C'est...
voilà, faut vraiment y aller sur tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'on vous tombe dessus parce que. Et il reste peu de temps, je vois Fanny qui veut intervenir, donc je vais te laisser.
Non, c'était juste exactement pour rebondir sur quoi c'était. C'était pour dire si tu te sens pas bien, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est purement ça, et simplement, en fait, si tu le sens pas, c'est qu'il y a un problème. Vas-y, je te laisse continuer, désolé.
Non, mais t'as tout à fait raison. C'est faut jamais hésiter et faut essayer de défendre au maximum les bonnes initiatives, enfin, ou tout du moins les initiatives qui vont dans le bon sens. Parce que de toute façon, sinon ça ne se fera jamais. À un moment, il ne faut pas oublier qu'on parle de médias qui ont pour la plupart fonctionnent dans un système capitaliste. Donc malgré tout, ils voient leurs dividendes à la fin.
Un petit mot. On fait un petit tour de fin parce qu'il est, il est 58 et on a prévu de mettre une musique derrière. Bon, ce sera pour le live. Après, on verra au podcast. L'équipe podcast que je remercie déjà d'avance. Fanny, un mot de la fin.
Oui. Je pourrais en dire plein, mais je vais essayer d'être
concis. Ouais, grave.
Mais tout simplement, en fait, il faut toujours sur le jeu, c'est pas parce que c'est du jeu qu'il faut pas se protéger. Donc, si on a l'impression qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Si on vit mal quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Donc, clairement, faut se protéger. Et en tant que public, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, quand on voit une scène sur laquelle il y a clairement de la discrimination, il y a un comportement qui est pas OK, faut juste arrêter quand on se sent capable, bien entendu. Donc je dis pas, c'est pas une, enfin j'intime pas aux gens de réagir, mais juste faut arrêter d'être le public bienveillant de sorties xénophobes ou transphobes ou validistes ou grossophobes, quoi. Juste on les voit, on réagit si on peut et on fait bouger les choses, parce qu'en fait le gros souci qu'on a dans nos milieux, c'est clairement qu'il y a une grosse majorité silencieuse qui derrière va venir te voir en disant mais t'avais raison, hein. Oui, mais sauf que moi je suis toute seule et en face ils sont 10, et du coup vu que vous êtes 90 à ne pas réagir, à ne rien faire, ils croient que vous êtes avec eux, même si vous voulez 90 vous êtes peut-être avec moi, mais dans les faits ils vous prennent pour un public bienveillant. Donc ça ne cessera pas, et moi je suis en train de m'épuiser face à eux, j'ai besoin d'aide. Donc c'est pour ça vraiment d'inciter les gens quand ils le peuvent, quand ils ont envie de réagir et de prendre position, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que c'est hyper politique le jeu.
Tout à fait. Clotaire, un petit mot.
Ouais, rapide. Casser les codes.
Casser les codes, ouais.
Ouais, casser les codes. À un moment, il y a comme ça que ça avancera aussi.
C'est juste. Donc, très bon. Val.
Et reste Val là.
Je voulais juste.
On prend à froid, désolé.
Non. En plus, j'y réfléchissais, mais du coup, voilà. Je voulais en fait mentionner donc l'article qui m'a vraiment ouvert les yeux sur les communautés geeks, qui date maintenant d'il y a 7 ans, qui a été écrit par Marlar, qui s'appelle Sexisme chez les geeks, pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier. Et je parle vraiment, quand j'en parle aux gens et quand je propose aux gens de le lire, je dis, pour moi, ça a été une épiphanie. Je n'étais pas la même personne au début et à la fin de cet article. C'est extrêmement long, elle raconte beaucoup de choses qui se déroulaient il y a 5-7 ans maintenant. On en voit beaucoup moins aujourd'hui, certes, parce que maintenant c'est beaucoup plus insidieux, mais ça dit à quel point on revient vraiment de loin, en fait, et c'était il y a 7 ans. Donc on revient vraiment de loin, on fait des petits pas, il faut continuer dans ce sens et dans ce bon sens.
Il a suffi que le lien avait été diffusé par notre technicien, du coup, que je vais remercier. Merci à vous trois déjà d'avoir répondu présent. Merci aux gens que j'ai invités et qui n'ont pas pu venir. Je pense à Cora, je pense à Anne, je pense à Michael, à Nico, à Aurore. À Ligeia aussi, qui aurait voulu intervenir, mais qui avait autre chose. Merci à Val de l'équipe, à Frozen Waffle qui m'a permis d'écrire aussi, qui a pas mal bossé sur le conducteur. À Tata, à la modération.
Oui, Tata.
Yann à la technique. Bon vent à tous et à toutes. Et n'oubliez pas que tout est jeu, alors jouons. Cependant, tout est politique, alors militons. Et il y a des gens actuellement qui sont place de la République, qui militent, qui manifestent. Et on leur envoie tout plein de soutien. À bientôt. Musique.
18 décembre 2017. Joey Gluten décuve en mangeant un sandwich quand il reçoit soudain l'appel d'un très vieil ami. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de découvrir que cet ami est devenu une petite merde. Une enfoirée de salope de chagasse, de putain de salope, d'enfoirée de sa mère, de gros nazi de merde.
Seul sur le sofa, sirotant un soft, squattant le PC, sale série sous-titrée. Mon sandwich suinte sur mon siège, salopant mes sapes de sauce samouraï. Je savoure les saveurs en squattant le salon. 5 ou 6 jours que je sens plus le savon. Skunk skunk dans le spliff, 100 balles dans le paxon. Ça va jusqu'ici, tu suis bien la chanson. Et je sens que se pointe le semi-sommeil. Je sombre en pensant au sky et soda de la veille, au sein de Sandra qui suait sur mon lit. Une pensée positive pour un dodo sans souci. Du sud au stade, je pense à l'ascension. Saliver sur le succès me file de sale sensation. Je redescends sur le sol, sors de mes songes, surpris soudain par le son de mon sans-fil.
Some Ouais. Tu tout sec, c'est salé. Uh-huh.
Okay.
C'est pas du sucrulot. C'est ça, le cerise, c'était super bien sauté.
Ouais, sûr, passe. C'est 5 rues, j'en sens peur. Tu suis le bus jusqu'à la caserne des sapeurs. Sur le chemin, chope des slims à l'épicerie de nuit. Et si t'as soif, t'inquiète, il reste du Pepsi. Sur ce, je me rassieds et j'attends bien sagement. Je presse la barre espace et je relance ma série. Une scène bien sanglante à coups de surin dans les dents. Dur, dur de capter qui se suicide et qui survit. Passe le temps quand sonne la sonnette. Un grec dans le sac, il se tient sur le paillasson. Un sourire à l'idée d'assaisonner sa galette. Mais un signe sur son front retient mon attention. Avec un symbole comme ça, j'espère que t'étais saoul, que c'est qu'un passage à vide, que t'as seulement suivi les simples. Et quand tu te sentais seul, sale histoire, t'es monstrable, mais tu récites s'oral. Le vice du moustachu et le salace de sa morale. Que faire quand on sauce passe chez les SS, lui passer de la sauce ou le laisser dans la S. Que faire quand on sauce est tenu en laisse, que t'as pas vu les signes qui le poussaient vers la messe. C'en est assez, je te connais, c'est subversif, mais le fun s'en est allé. Non, c'est pas ce soir que j'exaucerai ton souhait. Non, c'est pas ce soir que je saucerai ton poulet.